Oui, alors voilà, donc, l'idée, c'est bien sûr, c'est de récupérer par tous les moyens possibles de l'argent, mais pourquoi faire ? Et je vais essayer de vous montrer le genre d'action que nous soutenons depuis maintenant plus de 20 ans avec un conseil scientifique international. Si on peut peut-être montrer les diapos, je pense que, voilà, donc, si vous voulez bien passer, voilà, on passe. Voilà, le but de la Fondation, c'est bien sûr la connaissance en maladie, le diagnostic précoce, les maladies apparentées. Et ce qui est important, c'est la stratégie. La stratégie, nous avons mis au point un comité scientifique européen indépendant. Et je crois que c'est la particularité de cette fondation. C'est peut-être, à ma connaissance, la seule fondation qui agit de cette façon-là. Il n'y a pas dans cette fondation de... Il n'y a pas de membre du Conseil qui soit français. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts et les projets qui sont déposés à la Fondation sont jugés par un comité indépendant européen qui se réunit une fois par an et qui reçoit tous ces projets et qui classe les projets en fonction de leur qualité. À la différence de la plupart des fondations, que j'ai participé à d'autres fondations, et je peux vous dire que dans ces autres fondations, le comité scientifique est français. Et évidemment, il y a forcément des amitiés, on peut imaginer qu'il y a des pressions qui font que c'est parfois difficile de ne pas accorder le financement à un projet donné. Donc je crois que vraiment, il y a une garantie d'indépendance qui fait la caractéristique de cette fondation. Voilà, alors des projets de recherche, des contrats doctoraux, on soutient des doctorants, des post-doctorants. C'est nous qui sommes à l'origine du Grand Prix européen. Chaque année, on élit le Grand Prix européen et c'est intéressant de savoir que cette année, on a par exemple élu par ce comité international et indépendant Lars von Sell, qui est le découvreur du médicament qui est maintenant, je vous en parlerai à la fin, reconnu comme étant, semble-t-il, un peu efficace dans cette maladie. Voilà. Alors, pour vous donner quelques idées de ce que nous finançons, vous voyez par exemple comment se propage la protéine amyloïde d'un neurone à l'autre. Et ça, c'était. On finance, vous voyez, une équipe qui est à Paris, celle-là, oui. Comment se propage ? Ça, c'est la propagation de la protéine tau. Existe-t-il un rapport entre maladie d'Alzheimer et utilisation des pesticides chez travailleurs agricoles ? Vous voyez, c'est des choses qui sont d'ailleurs très à la mode. On parle beaucoup de la possibilité que certains pesticides pourraient avoir une influence dans les maladies neurodégénératives. Peut-on doser un nouveau biomarqueur dans le sang pour le diagnostic de maladie d'Alzheimer et l'hétéopathie ? Ça, on va en parler. Car aujourd'hui, on se pose la question de savoir si on ne peut pas faire le diagnostic de la maladie simplement par un dosage sanguin. Vous voyez ? Donc là, on est très, 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 très à la pointe sur cette recherche que nous soutenons. Pourquoi les femmes sont-elles plus souvent atteintes de maladie d'Alzheimer ? C'est une question qui est abordée notamment par l'équipe de Lille, qui est très, très spécialisée dans les études génétiques. Voilà, il y a peut-être une piste génétique pour expliquer cette fréquence plus importante. Les données d'imagerie sont-elles corrélées aux marqueurs du LCR dans la maladie de Cordelievi ? Oui, on s'intéresse à d'autres maladies que la maladie d'Alzheimer. Vous savez que la maladie de Cordelievi est considérée comme la deuxième démence dégénérative après la maladie d'Alzheimer. Peut-on traiter la maladie d'Alzheimer avec des molécules déjà existantes ? Vous voyez, ça, c'est un projet, oui, ce que je voulais dire, c'est un projet qui est local, un peu, qui est de PACA, qui est niçois, et qui vise à vérifier si des médicaments qui sont déjà sur le marché, c'est-à-dire des médicaments qui n'ont pas, je dirais, d'effets secondaires nouveaux et qui sont autorisés, pourraient éventuellement avoir une efficacité de la maladie d'Alzheimer. C'est intelligent, vous voyez. Voilà le genre de choses que l'on soutient. Peut-on se fier en pratique clinique aux marqueurs sanguins ? La maladie d'Alzheimer, grand sujet, je l'aborderai dans mon exposé. Voilà, vous voyez, le genre de choses, c'est assez éclectique. C'est autour de la recherche clinique. Et vous voyez, c'est de plusieurs villes de France. Et ce sont des projets qui ont été donc validés par un comité scientifique international et tout à fait indépendant. Voilà. Alors là, maintenant, je vais vous parler de la maladie d'Alzheimer. Et je vous signale, je vous rappelle, je vous informe qu'il y a un excellent livre qui a été écrit sur cette maladie, qui a été publié chez Grasset, et qui raconte un peu l'histoire de cette maladie d'Alzheimer, et qui insiste dès le début pour expliquer pourquoi finalement cette maladie est fréquente et pourquoi devient-elle aussi fréquente aujourd'hui. Car c'est l'impression qu'on a, cette maladie devient fréquente. Eh bien tout simplement parce qu'il y a un allongement de la vie qui est une conquête de la la qualité des soins que nous produisons dans les pays occidentaux, c'est une chance pour nous tous, mais c'est aussi un défi pour nos sociétés, car maintenant, on voit apparaître, je dirais, c'est une maladie que j'avais appelée il y a 20 ans, maladie nouvelle, non pas qu'elle soit nouvelle, elle a été décrite par Alzheimer en 1906, mais elle est nouvelle par son importance. Et pour vous en convaincre, je voudrais simplement vous rappeler, par exemple, que au 19e siècle, au début du 19e siècle, l'espérance de vie d'un sujet qui naissait au 19e siècle était de 40 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie est de 90 ans. Si vous avez une petite fille qui naît aujourd'hui, eh bien, elle va vivre 90 ans en moyenne. Eh bien, 90 ans, sachez que 40% des gens ont une maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une petite fille qui naît a pratiquement a plus d'un tiers de risque de développer cette maladie à la fin de sa vie. Vous voyez ? Donc, c'est pour vous donner une idée de l'importance que ça représente. Voilà. C'est une maladie de la personne, bien sûr, mais aussi de la famille, de la société. Voilà. Et c'est un vrai problème. Alors, je voudrais rapidement vous montrer, puisque mon topo, c'est sur l'actualité, les actualités, vous montrer qu'on a énormément progressé depuis 1906, date à laquelle, je vous le rappelle, Alzheimer a décrit la maladie qui porte maintenant son nom. Donc en 120 ans, un peu moins de 120 ans, on a énormément progressé. D'abord, on a progressé dans la connaissance de l'histoire naturelle des lésions. La maladie d'Alzheimer, c'est pas n'importe quoi. Cette maladie, elle débute ici, vous voyez, elle débute ici, au niveau de cette région du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hippocampe ? Ben, l'hippocampe, de façon un peu schématique, je dis que c'est la porte qui ouvre la banque, qui est la banque du cerveau. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous percevons avec nos systèmes perceptifs, par les oreilles, par la vue, etc., tout ce qui est capté par nos radars, est envoyé vers cette banque, où on va garder l'information. Ce que je dis, c'est que le cerveau, c'est une structure qui est capable de transformer le présent en passé. Voyez, bon, et bien cette transformation se fait grâce à l'hippocampe qui ouvre la porte et qui fait rentrer l'information qui a été perçue dans le cerveau. D'accord. Si l'hippocampe est cassé, comme dans cette maladie d'Alzheimer, voyez, si l'hippocampe est cassé, l'information qui a été perçue, bien elle vient buter et elle ne rentre pas dans le cerveau. Et donc cette information sera perdue. C'est-à-dire que ces sujets, ceux qui sont malades, finalement, ils ne peuvent pas créer de nouveaux souvenirs. Mais leur hippocampe était ouvert tout au long de leur vie. C'est ce paradoxe qui fait que quand les malades, les familles viennent me voir, elles me disent « mais sa mémoire est bonne, puisqu'il se rappelle les choses passées ». Très bien, d'accord, ça ne m'étonne pas. Mais est-ce qu'il se rappelle ce que vous avez vu à dîner hier ? Non, mais sa mémoire est bonne, il se rappelle. Non, mais pour moi, la mémoire, c'est la capacité à se rappeler ce qu'on a fait la veille, à ce qu'on a eu à dîner la veille. Parce que ça veut dire que la porte est ouverte si on garde en mémoire des informations récentes. Vous voyez le paradoxe, qui est que la mémoire, elle a marché jusqu'au début de la maladie. Donc, nos malades, ils ont mis plein de choses dans leur sac, bien sûr. Mais est-ce qu'ils mettent de nouvelles choses ? Non. Et c'est ça, le fait qu'ils sont malades. C'est que la porte est fermée et ça ne rentre plus dans le cerveau. Alors, on sait donc que cette maladie reste relativement longtemps localisée dans cette région de l'hippocampe, ce qui fait qu'on va avoir, et je vais vous l'expliquer, longtemps, une maladie qui se limite à des troubles de mémoire. D'accord ? Et puis, à partir d'un certain moment, les lésions vont diffuser à l'ensemble du cerveau, vous voyez, ce qui fait que finalement, à l'arrivée, on va décrire finalement deux phases. Une phase de la maladie qui est limitée au syndrome amnésique, d'accord ? Pendant de nombreuses années. Et puis, secondairement, lié à la diffusion des lésions en dehors de l'hippocampe, on va voir apparaître d'autres troubles. Alors, des troubles du jugement, des troubles du langage, des troubles de la reconnaissance des visages, des troubles des gestes, etc. Des troubles d'agitation, des troubles du comportement. Et tout ça, ça va faire que les gens, les malades, malheureusement, ne vont plus être tout à fait autonomes, ne vont plus pouvoir se gérer eux-mêmes. Et c'est ce qui définit en médecine, je suis désolé du terme, c'est un terme maladroit, malheureux, c'est ce qui détermine ce qu'on appelle la démence. Et dément, pour nous médecins, ce n'est pas quelqu'un qui a perdu la raison, pas quelqu'un qui est fou, pas quelqu'un qui débloque, pas du tout. C'est quelqu'un qui n'est plus autonome, qui n'est plus capable de se prendre en charge tout seul. Donc un sujet qui n'est plus capable de prendre ses médicaments tout seul, qui n'est plus capable de se déplacer, ou de remplir sa feuille d'impôt, ou de répondre au téléphone, c'est quelqu'un qui est dépendant, il a besoin d'être aidé dans les activités de la vie quotidienne, on dit qu'il est qu'il a une démence. Voilà. Donc, vous voyez, ces deux stades dans la maladie. Donc, ça, c'est une donnée nouvelle que finalement, avant ce stade de perte d'autonomie, il y a le stade du syndrome amnésique, qui est relativement isolé, qui peut durer assez longtemps. Alors, quand on dit ça, évidemment, les gens dans cette salle, en particulier, sont inquiets, parce qu'il est en train de nous dire que finalement, le fait de perdre sa mémoire, c'est le début de la maladie d'Alzheimer. Non, je n'ai pas dit ça. Et je vais vous le démontrer, parce que c'est la grande question. Quand il y a des journées un peu grand public comme ça, je pose régulièrement la question que ceux qui ne se sont jamais plaints de leur mémoire lèvent le doigt. Personne ne lève le doigt, bien sûr. Moi le premier.
Même parmi les plus jeunes, au fond.
Moi, le premier. Ah, peut-être des très jeunes, ou quelques présomptueux. Mais non, tout le monde se plaint de sa mémoire. Donc il ne faut pas se tromper. Quand je parle de syndrome amnésique, je parle de troubles objectifs, réels de la mémoire, et non pas de plaintes de mémoire. La plainte de mémoire est un phénomène banal. Et je vais vous montrer un petit travail que j'avais fait il y a quelques années, mais qui est intéressant. On avait fait une auto-évaluation de la mémoire dans deux groupes de sujets. Premièrement, vous avez un groupe de sujets qui se plaint beaucoup. Voilà, ils se plaignent beaucoup, vous voyez, dans une échelle de 0 à 180, je crois. Vous voyez, là, ils sont à 160, là, ils se plaignent beaucoup, vous voyez, dans différents secteurs de la mémoire, le rappel, la rétention, la mémoire ancienne, etc. Très bien, ils se plaignent. C'est un groupe de sujets qui étaient déprimés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'avaient pas de trouble de mémoire. Vous voyez, ils ont un MMS à 29 sur 30. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais le MMS, c'est un peu le thermomètre des fonctions intellectuelles. Donc, à 29 sur 30, ils avaient une performance normale. On a tous un MMS aux alentours de 29, 30, 28, vous voyez, etc. Bon, eh bien, c'était des gens qui étaient normaux, mais ils ont une plainte très élevée. D'accord ? Et puis, au-dessous, vous voyez, il y a un autre groupe. Alors là, ça, ce sont des gens qui ne se plaignent pas du tout. Ils ne se plaignent pas, c'est à zéro, ouais, rien du tout. Bon. Et là, ce sont des patients qui avaient, en revanche, un MMS bas, à 20 sur 30. Des patients qui avaient une maladie d'Alzheimer. Donc le paradoxe, c'est que ceux qui se plaignent n'avaient rien, et ceux qui ne se plaignent pas avaient la maladie. Et d'ailleurs, c'est l'expérience qu'on a. C'est que, généralement, les malades, quand ils ont la maladie, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte, et c'est généralement l'entourage qui s'inquiète. Donc, ce qui m'avait fait dire à l'époque que plus on se plaint de sa mémoire, moins on a de risque d'avoir la maladie d'Alzheimer.
Voilà. C'est rassurant.
Quand je dis ça, je sens dans la salle une certaine détente. Mais il y a peut-être un petit peu d'excès, mais il y a beaucoup de vrai là-dedans. Donc, si vous voulez, il faut comprendre, et je ne vais pas aller plus loin parce que je ne suis pas là pour faire un cours de médecine, mais il faut comprendre que, en gros, ce dont vous vous plaignez, ce n'est pas du tout de la mémoire, c'est de l'attention. L'apostrophe. Hein, le phénomène attentionnel. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas attention aux choses sans importance. On ne peut pas dédier son attention à tout. D'accord ? On ne peut pas envahir son cerveau de choses sans importance. L'emplacement de ses lunettes, l'emplacement de son unal, l'emplacement de ses clés, parfois même l'emplacement de sa voiture, l'emplacement. Ah oui, des choses comme ça qu'on fait de façon machinale. Bon, on ne fait pas attention aux choses machinales. On ne fait pas attention aux choses sans importance. D'accord ? C'est pas rentrer dans l'hippocampe. Ça reste juste comme ça, superficiel. Je suis là en train d'écrire et puis j'ai mes lunettes sur le nez. On sonne à la porte. Bon, je pose mes lunettes et puis je vois. Mon attention est captée. Qu'est-ce qui peut m'appeler à cette heure-là, vous voyez ? Et je ne sais plus où j'ai laissé les lunettes. Quand je reviens, je cherche mes lunettes. Je vais dans une pièce pour aller chercher, je sais pas, le fromage. Puis entre-temps, je me dis, ah tiens, il faut que je joue. J'ai les enfants. Bon, alors j'arrive dans la pièce et je ne sais pas ce que je viens y chercher. Parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres choses qui sont passées par la tête. Voilà. Ça, c'est l'attention. Donc, ce dont on se plaint, nous, tout le temps, ce n'est pas de notre mémoire, c'est de notre attention. D'accord ? Mais en revanche, s'il y a un fait notable qui a mobilisé notre attention, par exemple, l'élection d'un nouveau président aux États-Unis. Bon, vous voyez. Ben là, si vous voulez, ça, on l'a capté, je crois. Vous voyez, ça, c'est rentré, l'hippocampe, il a fonctionné. C'est rentré dans le cerveau. Et si je vous pose la question, vous saurez y répondre. Voilà. Donc, vous voyez bien la différence. Je pense que maintenant, c'est clair pour vous. Deuxième chose très importante que je vais vous dire, c'est que maintenant, à la différence d'Alzheimer, qui, lui, a décrit les lésions de la maladie en découpant le cerveau de la malade qu'il avait suivie, Eh bien, nous, pendant très longtemps, on n'avait pas accès à l'information. On n'allait pas, bien sûr, découper le cerveau de nos patients pour savoir la maladie qu'ils avaient. En revanche, depuis quelques années, depuis moins de 20 ans, on peut maintenant visualiser les lésions du vivant des gens. C'est-à-dire que, tout à l'heure, monsieur qui me suit avec beaucoup de participation et d'intérêt à ce que je raconte, ben nous allons tous les deux, si vous voulez, à la Timone, tout à l'heure, et puis on peut savoir si on a les lésions de la maladie. Il suffit de faire cet examen, ce PET scan. Je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. Cet examen, ce PET scan, vous voyez, on me met dans l'appareil, on m'injecte une petite substance, et ça va se fixer sur les lésions, vous voyez, ici. Alors si ça se fixe comme ça, ça veut dire que j'ai les lésions de la maladie, vous voyez. Là. Et là, c'est un sujet contrôle, il n'a pas de fixation. Donc on peut le faire comme ça, d'accord. Mais le problème, c'est que le ministère de la Santé, qui contrôle tout ce qu'on dépense, on a dit non, on n'a pas le droit de le faire en clinique. Mais on a mieux, c'est qu'on peut le faire maintenant par une ponction lombaire. C'est très spectaculaire, ça effraie un peu, en réalité, c'est rien du tout. Sachez qu'à la Salpêtrière, on en fait 500 par an. C'est un geste tout à fait banal, petite piqûre dans le dos, et on récupère les informations sur les lésions cérébrales. C'est extraordinaire, mais dans le liquide céphalo-rachidien, c'est une fenêtre qui nous donne l'état de la concentration des protéines pathologiques du cerveau, c'est-à-dire la protéine amyloïde et la protéine tau, TAU. Voilà, eh bien, on fait une mesure. Très bien. Mais, encore plus fort, je pourrais dire, aujourd'hui, on est en train d'observer des modifications, des concentrations des protéines cérébrales au niveau du sang. Et à la Salpêtrière, je pense aussi probablement à Marseille, on est en train de faire ces dosages. Alors c'est en recherche, mais bientôt, ça sera probablement en clinique. On est en train de faire ces dosages de la protéine tau dans le sang et on montre qu'il y a une corrélation, il y a une relation entre le taux sanguin et la présence des lésions dans le cerveau. Alors, ça, c'est quand même une sacrée nouvelle. Hein. Vous voyez, ça avance beaucoup. Ça avance beaucoup, mais ça avance d'autant plus que, et là, accrochez-vous bien, on sait maintenant que les lésions de la maladie, et donc ces marqueurs dont je vous parle, c'est-à-dire ces dosages qu'on peut faire, sont positifs avant les premiers symptômes. Alors, vous avez là, ici, vous voyez, la date d'apparition des premiers symptômes, d'accord ? Et vous voyez que 15 ans avant, il y a déjà des changements dans le cerveau, dans le liquide céphalo-rachidien, en PET amyloïde, il y a déjà des changements qui témoignent qu'il se passe des choses 15 ans avant les symptômes. Alors, ce n'est pas tout. Le fait d'avoir ces lésions chez des sujets normaux, je vous disais que je peux aller ce soir à la Timone me faire faire cet examen, et on saura si j'ai ou pas les lésions. Imaginons que j'ai les lésions. La question est de savoir si je vais formellement développer la maladie. En d'autres termes, est-ce que le fait d'avoir les lésions indique formellement que l'on développera la maladie ? C'est une question fondamentale en termes de recherche, parce que ça va changer complètement la face des choses. Si le fait d'avoir les lésions détermine formellement d'avoir la maladie, on va peut-être pouvoir travailler sur ce modèle-là. Si, en revanche, ça n'est pas déterminant, il va falloir comprendre pourquoi on a les lésions et pas forcément la maladie. Bon. Donc, à la Salpêtrière, j'ai fait une étude de suivi sur 7 ans maintenant de sujets âgés, normaux, qui étaient absolument normaux, qui n'avaient aucun trouble de mémoire, d'accord, mais qui avaient les lésions, qui étaient amyloïdes, positifs, en PET scan. Très bien. Eh bien, vous voyez, on a suivi 320 sujets dans le même centre, c'est-à-dire dans un seul centre, on a suivi 320 sujets qui avaient en moyenne 76 ans, vous voyez, ils étaient quand même pas tout jeunes, très bien, et sur les 320, il y en avait 28%, c'est-à-dire il y en avait 88 qui avaient les lésions de la maladie. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Je vais vous parler de 88 sujets âgés, normaux, qui ont les lésions. Et la question que je me pose, que je vous pose, que nous nous sommes posés, c'est est-ce que ces 88 sujets vont développer la maladie quand on les suit ? Vous avez compris la question. Très bien. Voilà le résultat. Après 7 ans de suivi, seuls 16 d'entre eux ont développé la maladie sur les 88. Ce qui veut dire qu'il y en a 72 qui n'ont pas développé la maladie. C'est très intéressant. pourquoi n'ont-ils pas développé la maladie? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des modifications qui nous ont intéressés. Je ne dis pas que ces modifications expliquent tout, mais peut-être qu'il y a là quelques clés que je voudrais vous livrer. Si vous regardez ici, dans les lignes du haut, cette ligne du haut, c'est l'activité électroencéphalographique, c'est rien du tout. On a fait un électroencéphalogramme à tous ces sujets. Et là, vous avez en haut les sujets qui sont négatifs, qui n'ont pas de lésion. Et on voit qu'au cours du temps, bien finalement, ça ne change pas. Leur activité électrique n'est pas modifiée. Très bien. En revanche, quand on regarde la ligne du bas, là, ce sont des sujets qui ont les lésions, mais qui restent stables au cours du temps. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que leur cerveau, que l'activité électrique de leur cerveau change au cours du temps, alors qu'ils restent stables. D'où l'hypothèse que le cerveau est capable de modifier son fonctionnement pour maintenir la fonction, alors même qu'il y a une altération de la structure. Vous comprenez ? Donc l'idée qu'il y a peut-être des mécanismes de compensation, ce que j'ai appelé le concept de résilience cérébrale, le cerveau peut être résilient et est capable de s'adapter pour éviter de perte de fonction alors même qu'il y a l'altération structurelle. Alors, c'est la raison pour laquelle je milite, et nous militons à la Salpêtrière, et je pense à Marseille aussi, pour la création de centres de prévention du vieillissement cognitif. C'est-à-dire que, vous allez comprendre, l'idée est la suivante. La maladie d'Alzheimer, c'est un problème de santé publique. On a des marqueurs diagnostiques. On sait que la prévention marche. Je vous montrerai comment on a des éléments qui montrent qu'on peut prévenir la maladie. Les traitements arrivent. Je vais vous le montrer après. Donc, on sait que si on arrive à retarder de 5 ans l'entrée dans la maladie, on va diminuer de 50% la fréquence de cette maladie. Donc, voilà le projet que nous avons. Et voilà comment je me projette, moi, à 10 ans. Voilà ce qui va se passer. En recherche, on va suivre des sujets, vous voyez, comme ceux que je vous ai présentés tout à l'heure, ces cohortes de gens qui acceptent qu'on les suive, qui sont normaux, peut-être âgés, d'autres moins âgés, qu'importe. Peut-être d'autres avec des stades de début, peut-être des sujets à risque parce qu'ils ont quelqu'un dans leur famille qui, etc., parce qu'ils ont une plainte, parce qu'ils veulent consacrer un peu de leur temps à la recherche. Très bien. On va les suivre. On va faire des cohortes, vous voyez. Et à partir de ces cohortes, qu'on va suivre sur des années, on va avoir des bases de données. Et à partir de ces bases de données, on va pouvoir extraire des algorithmes de prédiction. On va pouvoir dire que finalement, bien sûr, il faudra les lésions. Si on n'a pas les lésions, les lésions sont nécessaires, bien sûr. Mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut peut-être d'autres facteurs. L'âge, certainement. Peut-être le sexe, pas sûr. L'existence de maladies dans la famille. La présence de certaines protéines sanguines. On sait maintenant qu'il y a des facteurs de risque qui facilitent la survenue de la maladie, etc. C'est une équation à de nombreuses inconnues. Et c'est ce qu'il va falloir faire, c'est connaître cette équation à nombreux inconnus. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y aura des centres de prévention de déclin cognitif avec des gens comme vous et comme moi qui voudront savoir quel est leur risque et qui viendront dans ces centres où on appliquera ces algorithmes de prédiction. Et on dira, voilà, compte tenu du fait que vous êtes A plus B, que vous avez ça, que vous n'avez pas ça, que vous avez... Vous avez, allez, 20% de risque de développer la maladie dans les 15 ans. Ou 90% de risque de développer la maladie dans les 3 ans. Vous voyez, et on va définir des niveaux de risque avec des patients, des populations qui seront à haut risque et des populations qui seront à bas risque. Et à partir de là, on pourra faire des interventions ciblées. Alors, des interventions sur des facteurs de risque modifiables, on va en parler, ou éventuellement avec des thérapeutiques. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les facteurs de risque modifiables, bon, ça, on sait qu'il y a des facteurs qui sont protecteurs du vieillissement cognitif. On en parle beaucoup dans la presse. Il y a même un livre qu'on va vous présenter après. Il y a 6 facteurs qui ont été identifiés. Les facteurs de risque vasculaire, parce qu'il y a une composante vasculaire chez les gens âgés. L'activité physique et la marche, la nutrition équilibrée, le bon état sensoriel, les activités stimulantes et surtout l'interaction sociale. Vous savez, on accorde beaucoup d'importance à l'interaction sociale. Je vous expliquerai pourquoi, si vous voulez. Et puis les médicaments. Alors, pourquoi les médicaments ? Eh bien, Je vais très rapidement vous expliquer que c'était une longue and winding road pour les amateurs des Beatles, vous savez ce que c'est cette chanson, mais c'était une route longue et sinueuse, voilà. Eh bien, parce que en 2000, Schenck, Del Schenck, que j'ai bien connu, a montré que sur une souris transgénique, sur des souris transgéniques, vous voyez, eh bien, quand on injecte un anticorps, eh bien, vous voyez, il y a une disparition des lésions. Ça, ce sont les lésions amyloïdes. Eh bien, quand on injecte un anticorps anti-amyloïde, ça entraîne une disparition des lésions. Alors, je passe sur toutes les péripéties par lesquelles il a fallu passer, et notamment une meilleure définition des populations grâce à ces fameux biomarqueurs dont je vous ai parlé, pour arriver enfin, à ce résultat que des médicaments, des anti-amyloïdes sont efficaces. Alors, je vais vous le démontrer de deux façons. D'abord, ils sont efficaces sur les lésions. Sur les lésions, vous voyez tous, je pense, cette diapo. Et ça, c'est très important. C'est efficace sur les lésions. C'est-à-dire que dans ces études, ces essais thérapeutiques, on mesure les biomarqueurs dans le cerveau, comme je vous ai montré, c'est avec l'image. On voit le PET amyloïde avec les lésions jaunes et rouges là, sur le cerveau. Bon. On mesure ces lésions au début, dans l'entrée dans l'étude. Et puis on suit ces patients pendant un an et demi, c'est 18 mois que durent ces études. Et avec les trois derniers médicaments qu'on a étudiés, c'est-à-dire l'aducanumab qui est ici, le lecanemab qui est là et le donanemab, les trois médicaments ont tous le même effet. Ils diminuent de près de 80% les lésions du cerveau en un an et demi. Je répète. Les médicaments aujourd'hui que nous avons à notre disposition nettoient les lésions du cerveau de 80% en un an et demi. Et certains, comme le donanemab, les nettoient en un an. Effet extrêmement rapide. Nettoyage des lésions. Très bien. Alors, ça marche sur les lésions, est-ce que ça marche sur les symptômes? Non, ça ne marchait pas sur les symptômes. Sauf que, en prenant des patients plus précoces, et avec ces médicaments qui sont très efficaces et qui ont ce qu'on appelle un effet de clearance, un nettoyage important, on commence à voir pour la première fois, voyez, un effet du médicament par rapport aux patients non traités. Alors, il faut s'arrêter une seconde sur ce résultat, parce que ce résultat, il est à la fois enthousiasmant, vous avez peut-être vu dans la presse, j'en ai pas mal parlé, soit à la fois enthousiasmant et à la fois décevant. Décevant, pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'il y a une pente d'aggravation, pardon, et que cette pente d'aggravation, elle est terrible. Hein. Regardez. Oh merde, pardon. Excusez-moi. Vous voyez, elle est terrible, cette pente d'aggravation. Dans les deux cas, d'ailleurs, vous prenez un médicament, vous allez vous aggraver. Donc, on va donner ce médicament à des gens en leur disant, voilà, vous allez vous aggraver. Mais vous allez vous aggraver moins que si vous ne preniez pas le médicament. C'est-à-dire que ce sont des médicaments qui ne bloquent pas les lésions, qui ne bloquent pas, si vous voulez, l'avancée dans la maladie, et qui, si vous regardez bien, quand même, ont quand même un effet qui n'est pas négligeable, parce que regardez, si vous voyez, par exemple, la décroissance jusqu'au niveau, si vous avez 1,2 de décroissance, eh bien, avec ce médicament, vous y arrivez assez vite. Quand vous ne prenez pas le médicament, vous y arrivez assez vite, voyez, vous y arrivez en 12 mois. Là, vous arrivez à ce même niveau en 18 mois. C'est-à-dire que vous avez gagné 6 mois. Voilà. Alors, c'est décevant. Mais quand on a commencé à traiter le cancer, c'était ça. Hein. C'était on repoussait de 6 mois, puis après d'un an, puis après de 2 ans. Voilà. Et alors, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est quand même enthousiasmant. Parce que c'est la première fois qu'on a un signal sur les lésions, d'accord, mais surtout sur les symptômes. Ce qui veut dire que ça valide l'ensemble de la démarche intellectuelle qui concourt à l'utilisation de ces médicaments. Voilà. Alors, on le prend comme on veut. Bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Elle est d'autant plus à moitié vide qu'il y a des effets secondaires. Bon, je passe sur ces effets secondaires, on pourra en parler. Et le résultat des courses, c'est que la fameuse agence européenne du médicament a décidé de ne pas autoriser ces médicaments. Considérant que le bénéfice, si vous voulez, risque, le ratio bénéfice-risque n'était pas en faveur du médicament. C'est la raison pour laquelle j'ai commis cette tribune dans Le Monde avec d'autres collègues européens, quatre autres collègues européens, car on est très, très déçus, finalement, l'idée étant qu'on est sur le quai de la gare et qu'on voit passer le train et qu'on n'est pas dedans. Et que moi, mon idée, si vous voulez, c'est qu'il faut laisser au patient le soin de décider s'il veut ou pas prendre un médicament avec toutes les astreintes que ça représente par rapport à un bénéfice qui reste limité. Ça, c'est la décision personnelle, mais on ne permet pas aux patients européens de bénéficier de ces médicaments alors que les Américains l'autorisent, les Anglais l'ont autorisé, ça c'est l'intérêt du Brexit, les Anglais l'ont autorisé, les Israéliens l'ont utilisé, les Chinois l'ont utilisé, les Japonais l'ont autorisé. Enfin bon, pratiquement tous les pays du monde entier l'ont utilisé, à l'exception de l'Europe. Voilà. Alors, l'avenir. Alors, ça, c'est vraiment... I have a dream. Hein. C'est vraiment... Voilà. L'idée, c'est la création de centres de prévention du déclin cognitif, avec recherche des facteurs de risque. D'accord ? Parce que là, on peut jouer sur les facteurs de risque. Doser les biomarqueurs sanguins pour repérer les sujets à risque. Vous avez compris. D'accord ? Là, il faudra communiquer sur le risque. Il faudra dire, et ça, c'est un grand enjeu, c'est pas parce que vous avez les lésions que vous avez la maladie. Je vous ai expliqué pourquoi. Je vous ai même convaincu que je vous rappelle que sur les 88 qui avaient les lésions, seuls 16 ont développé la maladie 7 ans après. Communication du risque. Mais pour ceux qui ont un très haut risque, à ce moment-là, on pourrait proposer une cure de disease modifier, de ces médicaments, lorsque ceux-ci auront démontré qu'ils retardent l'entrée dans la maladie sans effet secondaire important. Donc c'est comme ça que je vois les choses. C'est qu'on a des médicaments qui sont intéressants, qui nettoient les lésions. On va tester maintenant ces médicaments chez des gens qui ont les lésions, pas encore les symptômes, voir si on décale l'entrée dans la maladie, si on repousse l'entrée dans la maladie. Et à ce moment-là, il faudra, d'un autre côté, dans les services cliniques, repérer ces gens qui ont des lésions et qui sont à risque pour leur faire bénéficier de ces médicaments et retarder éventuellement l'entrée dans la maladie, et ainsi de suite. Voilà un peu le programme qui nous attend. C'est un programme, je trouve, intéressant, très enthousiasmant quand même par rapport à une maladie qu'on vous présente souvent comme une maladie effroyable, redoutable, face à laquelle il n'y a aucune perspective. Non, c'est pas vrai. Il y a plein de perspectives. Ça bouge énormément. Nous sommes très en avance, là. Il y a quelques pays qui sont en pointe. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir la recherche, parce que c'est le moment. Je pense qu'on est sur le chemin de pouvoir, peut-être pas traiter, peut-être pas revenir en arrière quand la maladie est déclarée, mais empêcher l'entrée dans la maladie. C'est tout au moins le programme que nous nous sommes fixés, que je me suis fixé.
Merci infiniment pour cette intervention passionnante. On va un petit peu discuter. Vous voulez... on peut faire passer les micros dans la salle, on en a plusieurs. Moi, j'ai déjà peut-être une petite question. Comment expliquez-vous qu'en fait, on a nettoyé le cerveau, vous le disiez, hein, 80% de réduction des plaques et des effets relativement mineurs? Est-ce que ça veut dire qu'une fois que les plaques sont formées, il est trop tard et que les dégâts sur le cerveau ont déjà été opérés? Et dans ce cas-là, je vais un peu plus loin, est-ce que vous imaginez demain un traitement préventif qu'on prendrait dès l'âge de 20 ans ou 30 ans, parce qu'il un traitement protecteur du cerveau?
Alors, vous posez bien sûr la bonne question. Effectivement, on est déçu, que j'ai dit, c'est à la fois décevant et enthousiasmant. On est déçu par la discrétion de l'effet. Alors, l'explication, une des explications possibles, moi, c'est celle que je retiens, c'est que probablement, lorsqu'on traite ces patients, ils sont déjà trop engagés dans la maladie, c'est ce que vous proposiez, mais c'est aussi mon analyse, sont trop engagés dans la maladie pour pouvoir espérer, si vous voulez, retour en arrière. Il faut avoir vu, malheureusement, je l'ai vu au microscope, mais l'état de délabrement des connexions cérébrales, des connexions neuronales chez des patients atteints de cette maladie. Quand on arrive à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Et on ne peut pas espérer, si vous voulez, rétablir des connexions neuronales qui sont complètement désagrégées. Le cerveau est désagrégé, il est complètement déstructuré. Donc je pense qu'il faut aller plus tôt. C'est bien l'idée. Alors, aller plus tôt, et je reviens à ma démonstration, si vous voulez. Aller plus tôt, en réalité, c'est aller chez des gens qui sont à haut risque, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup de lésions et qui sont sur le point de développer la maladie. Car il n'est pas question d'aller très tôt, très en avant, à l'âge de 20 ans, parce que ce n'est pas rien que de soumettre des gens à des médicaments tels que des anticorps anti-amyloïdes. Donc, justement, compte tenu de du sérieux de ces médicaments, de leur impact, je pense qu'il ne faut les réserver que chez des gens dont on est certain qu'ils vont développer la maladie. Parce que là, éthiquement, il n'y a pas de problème éthique, si vous voulez, quand on est certain que la maladie va être déclarée, ça ne me dérangera pas d'exposer éventuellement ces sujets à très haut risque à des médicaments potentiellement avec des effets secondaires peu possibles. Mais reste, comme je l'ai dit, et c'est ce que j'ai mis dans ma slide, lorsque ceux-ci auront démontré qu'ils retardent l'entrée sans effet secondaire important. Voilà.
Alors, on continue. Monsieur, oui, bien sûr.
Oui, tout à l'heure, vous avez dit que ces médicaments provoquaient des effets secondaires. Vous nous avez dit on pourrait en parler. Moi, j'aimerais bien que vous en parliez en me vous demandant aussi est-ce que vous conseillez-vous à vos malades de les prendre ? C'est ce que je n'ai pas bien compris. Et puis, je voulais dire aussi que je ne suis pas certain que vous ayez beaucoup de personnes qui soient intéressées de savoir 15 ans à l'avance qu'ils ont un pourcentage important d'avoir la maladie.
Très bien. Trois questions.
Merci. Alors, merci pour ces questions. Très pertinentes.
Alors, les effets secondaires. Les effets secondaires sont de deux ordres. Il peut y avoir des petites hémorragies très, très, très localisées ou des œdèmes. Et ces œdèmes sont la conséquence de l'efficacité. À quoi sont-ils dus, ces œdèmes ? Ces œdèmes sont dus au fait que, lorsque vous avez cet effet de détertion des lésions Alzheimer, ces lésions vont être reprises par le système vasculaire. Ils sont évacués. Bon. Et ça fait comme un effet d'évier bouché. C'est-à-dire que l'arrivée de toutes ces lésions dans le système vasculaire, des petits tout petits vaisseaux, fait que ça va boucher un peu le flux sanguin et ça fait de l'œdème en amont. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a observé que l'œdème était justement dans les régions dans lesquelles il y avait le plus d'effets des médicaments. C'est-à-dire que c'est un peu le prix à payer. Donc, c'est la raison pour laquelle on monte de façon très 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 lente les doses pour éviter cet effet-là. Ça, c'est la première question. Deuxième question rapidement. Qu'est-ce que je proscris à mes patients ? Je ne leur prescris pas le médicament puisque je vous ai expliqué qu'il n'était pas autorisé. En revanche, ils peuvent, dans le cadre de la recherche, participer à ces essais cliniques dont j'ai parlé. Et beaucoup de patients veulent participer à ces essais cliniques. Troisièmement, qu'est-ce qu'il faut dire ? Est-ce qu'il faudra faire cette enquête de la recherche des biomarqueurs chez des gens normaux ? Bien sûr que non. On ne le fera que si on a quelque chose à proposer. On est bien d'accord, cher monsieur. Jamais, jamais on va se lancer dans une investigation de ces biomarqueurs chez des gens normaux. Hein. Ce n'est que dans une perspective d'avoir des médicaments à proposer.
On va aborder ce sujet juste après, sur le diagnostic précoce, justement. Bruno Dubois, une petite question. Vous avez parlé d'une majorité de personnes qui, en dépit de plaques, ne développaient pas la maladie, restaient stables. Vous n'avez pas du tout décrit ces personnes. Est-ce qu'on a remarqué quand même des singularités chez ces personnes, je dis n'importe quoi, moins d'hypertension, moins de diabète, moins d'obésité, parce qu'on a corrélé aussi tout ça. Est-ce que vous avez pu dessiner un peu le profil
Il y a deux choses. Par rapport au déclin cognitif, vous avez raison, le contrôle de l'hypertension artérielle, la correction d'un diabète, l'activité physique, tout ça, c'est efficace pour le déclin cognitif. Moi, je me place par rapport à la maladie d'Alzheimer. C'est un peu différent. C'est-à-dire que le déclin cognitif peut résulter de plein de choses. Il peut résulter de lésions vasculaires cérébrales. Donc, il est évident que l'hypertension artérielle, le traitement de l'hypertension artérielle joue. Donc, ça, c'est très important. Il faut bien sûr contrôler tout ça. Alors, pour ce qui est...
De votre étude.
Alors, de l'étude, peut-être le meilleur facteur qu'on a montré, c'est ce qu'on appelle le niveau d'éducation. C'est-à-dire, le niveau d'éducation, faut pas se méprendre, c'est l'éducation, c'est le développement, c'est la scolarisation. C'est le niveau de scolarité. Parce que on pense à peu près plus de 100 milliards de neurones, chaque neurone pouvant établir jusqu'à 10 000 connexions avec les neurones voisins. Donc on a un potentiel de réseau synaptique extrêmement, extrêmement important. Et si on le développe très tôt, eh bien ce réseau va retarder, non pas la présence des lésions, mais va retarder l'expression des lésions. Vous voyez, ça va tamponner l'expression des lésions. Et donc, ça va retarder l'entrée dans la maladie. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut stimuler nos enfants. il faut les stimuler très tôt, il faut les faire apprendre, faire travailler leur cerveau, les ouvrir, leur faire visiter des musées, les intéresser à différentes choses, pour que tout ce réseau synaptique se développe et qu'il va venir, le moment venu, retarder l'entrée dans la maladie. Et c'est probablement la raison pour laquelle nos sujets qu'on a suivis étaient peut-être relativement préservés. Parce que pour participer à une étude comme ça, il faut déjà avoir un certain niveau d'éducation. Il faut s'intéresser, il faut être un peu altruiste, il faut dire, ben voilà, je suis à la retraite, mais je vais quand même consacrer un peu mon temps à quelque chose d'intéressant. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une certaine ouverture d'esprit. Et il y avait certainement un biais de sélection, mais ça m'intéressait malgré tout, parce que ça veut dire que, justement, ça fonctionne bien, vous voyez. L'interaction sociale, la stimulation cognitive, tout ça, il faut le faire, il faut continuer à faire marcher le cerveau. Pour moi, le cerveau, c'est une machine à traiter de l'information. Quand on regarde un cerveau, ce ne sont que des fibres, c'est des autoroutes qui transportent une information d'un point à un autre dans des usines qui traitent l'une le langage, l'autre la reconnaissance visuelle, la troisième les gestes, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est lui donner de l'information à traiter. C'est comme une plante qu'il faut arroser. Il faut l'arroser en permanence. Et l'interaction sociale est très bonne. Ce que vous faites, c'est très bien. Parce que là, si vous voulez, il s'est passé plein de choses. Vous avez appris des choses, vous avez vu des images. Ça va faire marcher votre cerveau. Et il faut continuer à le faire fonctionner. Le cerveau, il ne faut pas le laisser en friche. Il faut le stimuler. Il faut lui apporter de l'information parce qu'il est fait pour ça. Et l'interaction sociale est un très, très bon moyen de stimuler justement beaucoup de régions cérébrales.
OK. D'autres questions ? Alors, moi, une petite dernière. Est-ce que vous avez des éléments qui permettent d'étudier ou en tout cas d'augurer de la rapidité d'évolution des troubles? On sait que des patients déclinent très rapidement, d'autres moins, et que ce n'est pas corrélé nécessairement avec l'étendue des plaques. Est-ce que ça, vous travaillez dessus? Est-ce que, bon, malheureusement, voilà, une fois que le diagnostic est là,
est-ce que vous avez raison, et c'est l'intérêt justement de cette phase que je vous ai présentée, la phase dite prodromale, cette phase avant la démence. Elle est très intéressante, cette phase, parce que depuis qu'on a décrit cette phase, eh bien, on s'est rendu compte que finalement, les gens restaient souvent dans ce stade-là. Et si un jour, vous amenez quelqu'un de votre famille voir un médecin, eh bien, et s'il vous dit on est à la phase prodromale, on est à la phase des débutantes, eh bien, soyez rassurés, ça peut être très long. Moi, une histoire personnelle, quelqu'un de ma famille que j'ai suivi comme ça pendant longtemps, pendant à m'en souvenir, 13 ans, qui avait un syndrome amnésique isolé, et cette femme était veuve, c'était quelqu'un de ma famille, était veuve, elle vivait seule, elle se prenait en charge totalement, et de temps en temps, je voyais ses enfants, et je leur demandais comment va votre mère. Elle me dit, très bien, pourquoi? Et donc, il n'est même pas repéré qu'elle avait des troubles de mémoire, mais je savais qu'elle en avait, puisqu'elle venait me voir, et tous les ans, j'observais une petite tendance à la dégradation de mes je dirais, le syndrome amnésique était là, mais il n'y avait pas la diffusion vers d'autres régions. Elle est restée comme ça pendant 13 ans et elle est décédée, finalement, sans que personne ne sache qu'elle avait la maladie.
Et on ne sait pas pourquoi.
Ça reste localisé longtemps au niveau de l'hippocampe.
C'est juste parce que ça reste localisé au niveau de l'hippocampe.
Exactement. Exactement. Donc ça, il faut le savoir.
OK. Oui, c'est important, voilà. Hein, pour les familles de dire qu'une fois... Oui, plusieurs bras se tendus. Madame,
J'avais une question par rapport à votre étude. Vous l'avez fait sur des sujets de 76 ans.
Oui.
Est-ce que vous avez fait des études entre les sujets jeunes qui ont vraiment... Voilà, parce qu'on voit que ça se développe très, très vite.
Alors, oui, c'est ça. Je comprends votre question. Non, alors c'est vrai que cette maladie d'Alzheimer ne touche pas que les gens âgés. On l'avait fait chez les gens âgés de façon, excusez-moi, un peu triviale, mais... Plus on prenait des gens âgés, plus on pouvait espérer, entre guillemets, excusez-moi le terme, avoir une conversion rapide. Vous voyez, quand vous faites une étude, vous voulez avoir des résultats assez vite. Vous voyez. Si vous prenez des gens à 50 ans, des gens normaux à 50 ans, il va falloir attendre 30 ans avant que vous ayez la réponse. Vous voyez, sur le plan de la recherche, c'est pas...
Mais madame voulait aussi peut-être parler des patients plus jeunes de façon plus précise. Quid des patients plus jeunes, c'est-à-dire moins de 65 ans,
c'est... Voilà. Ah
voilà.
Oui, alors ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Là, ce dont je parlais, c'était des gens normaux. Alors maintenant, vous avez raison, la maladie d'Alzheimer est une maladie qui touche aussi des gens jeunes. Et ça, ce n'est pas bien connu. Et c'est dommage, parce qu'on considère qu'il y a en France près de 25 000, peut-être plus, de sujets qui ont la maladie avant 60 ans. Et ça, on le voit en neurologie. On voit cette maladie.
Ils sont sous-diagnostiqués ?
Ben, souvent, c'est considéré comme des malades psychiatriques. On a du mal à bien les repérer. Les médecins généralistes ne sont pas tout à fait au clair que cette maladie peut toucher des gens jeunes. Et la malade décrite par Alzheimer avait 52 ans. La plus jeune patiente en France, c'est une patiente qui a été suivie à Rouen. Elle a débuté sa maladie à 28 ans. Donc, vous voyez, ça peut toucher
les
gens.
Mais génétique, là.
Pardon ?
C'est génétique.
Cette forme était
purement génétique.
Cette forme était génétique. Mais moi, j'ai par exemple suivi, je me rappelle très bien, j'en ai vu beaucoup de patients jeunes, mais je me rappelle très bien d'un patient de 52 ans qui était un ancien major de l'ENA. Et qui, je le dis parce que c'est important, parce que ça veut dire que, vous voyez, ça ne touche pas, vous voyez, qu'on n'est pas à l'abri, quel que soit le niveau d'éducation qu'on a eu. Et c'est un ancien, peut-être pas major, mais il était dans les trois premiers, et qui a dirigé une très grosse institution, une institution française, et qui était au Conseil d'État, et qui a développé une maladie à 52 ans. On n'a jamais trouvé l'explication, il n'y avait pas de notion familiale, il n'y avait rien, aucun facteur de risque particulier. C'est effroyable, ça touche comme ça.
Alors, on n'a pas fini de découvrir des choses sur cette maladie, d'où l'intérêt de la recherche. Oui, une question aussi. Là.
Oui, vous avez parlé qu'il y a un échappement quand vous avez montré les photos du cerveau. Quel est le point de rupture de ce moment d'échappement comme ça ? Est-ce que ça peut être un gros stress, une dépression, un choc traumatique important ?
Alors, deux choses. Non, mais je vois très bien. Deux choses. Il y a l'échappement biologique, et ça, on connaît la cause de cet échappement biologique, c'est-à-dire c'est la présence des lésions amyloïdes dans le cortex qui fait qu'il y a à ce moment-là une sorte d'irruption des lésions hippocampiques en dehors du cerveau, bon, en dehors de l'hippocampe. Ça, c'est le choc biologique. Alors maintenant, vous parlez d'autre chose. Vous parlez du fait que des gens décompensent brutalement la maladie à l'occasion d'un choc, souvent d'une intervention chirurgicale. Alors c'est le coup classique d'une personne un peu âgée qui va se faire opérer pour un cancer de la prostate. Il n'avait aucun signe apparent de trouble cognitif. Et puis au réveil, il fait un peu de confusion, une réa qui est un peu compliquée. Et puis finalement, au réveil, on se rend compte qu'il perd complètement la mémoire. Il a décompensé brutalement sa maladie. Alors là, je pense que ça fait appel à d'autres mécanismes. Ces fameux mécanismes de résilience dont j'ai parlé, cette capacité qu'a le cerveau, vous voyez, de mettre en place des mécanismes de compensation qui permettent de maintenir la fonction. Et puis à l'occasion d'un stress, d'un quel qu'il soit, hop, ces processus s'effondrent. Et là, on rentre dans une maladie de façon relativement brutale. Et pour l'entourage, ils vont vous dire, mais sa maladie, c'est dû à l'opération qu'il a eue. Ça a débuté de façon brutale. Non. La maladie était là, mais elle était compensée jusque-là. Et elle s'est décompensée brutalement. Vous voyez la différence ?
C'est la rupture de la résilience dont vous parlez.
Exactement.
Du cerveau.
Exactement.
De résilience qui n'arrive plus.
Exactement.
Alors peut-être une dernière question au sujet du risque personnel quand plusieurs membres de sa famille sont atteints. Vous avez expliqué la fréquence de cette maladie. Elle est très fréquente. Arrivée à 90 ans, c'est 40% des personnes qui ont en tout cas ces marques dans le cerveau. Est-ce qu'on peut dire qu'on est à risque quand on a une mère, une grand-mère qui a eu la maladie à 70, 80 ans ? Ou c'est simplement, je dirais, un peu la fatalité. Est-ce qu'on peut parler de risque augmenté, comme on le fait pour le cancer ou autre, si des membres de sa famille l'ont eu, même à un âge avancé ?
Non. Voilà. Non, simplement, c'est une maladie qui est naturellement fréquente. Et maintenant, ce que l'on voit, on en voit de plus en plus, parce que, justement, c'est un signe de longévité familiale. C'est dans les familles où les gens vivent longtemps que la maladie va apparaître. Et si vous en avez dans votre famille, c'est probablement parce que les gens vivent vieux dans votre famille. Donc c'est finalement un avantage, c'est l'inconvénient de l'avantage. Et je crois que ce qu'il faut bien comprendre, et c'est comme ça qu'on va terminer là-dessus, sur une note un peu optimiste si vous voulez, c'est que grâce aux bons soins de la médecine et grâce à l'hygiène de vie que vous avez, en mettant votre ceinture de sécurité, en ne buvant pas trop d'alcool, en fumant pas trop de cigarettes, en contrôlant votre tension artérielle, tout ça, ben finalement, vous allez... je dirais, en bonne santé, vers l'âge où la maladie devient naturellement fréquente. C'est-à-dire que vous avez évité tous les pièges d'avant. On a eu la chance, nous, pour moi en tout cas, de ne pas avoir eu de guerre. Bon, déjà, pas mort en guerre. Je n'ai pas eu d'accident de voiture, pourtant je conduisais mal à une époque. J'ai pas fait de suicide amoureux. J'ai pas eu
d'hypertension artérielle. Alors vous en êtes bien remis. Hein.
Voilà, je m'en suis bien remis, etc., etc. Et donc finalement, on arrive à l'âge où cette maladie devient naturellement fréquente. C'est le prix à payer du succès, je dirais, de toutes les actions que nous avons
prises. Donc ne pas s'inquiéter inutilement. Camille me dit qu'il y avait une dernière question. Je suis désolée. On va vous applaudir. Merci pour cette intervention passionnante.